L'information continue avec votre rendez-vous décryptage, présenté ce soir par Marion Cazeneuve. Marion, bonsoir.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
Décryptage. Marion Cazeneuve.
C'est l'événement sportif du week-end. Il sera regardé par des millions de personnes à travers le monde. Le combat de boxe de Francis Ngannou, star du MMA, contre une autre star du Noblard, cette fois le Britannique Anthony Joshua. Cette rencontre poids lourd très attendue se déroule vendredi à Riyad, en Arabie Saoudite. Le pays accueille de plus en plus de compétitions sportives prestigieuses, d'importants événements culturels. Et pour cela, le Royaume investit à coups de milliards, de dizaines, de centaines de milliards de dollars, au point de s'endetter beaucoup. Alors est-ce un risque maîtrisé? Pourquoi autant de méga-projets? L'Arabie Saoudite peut-elle se sortir avec cela de sa dépendance au pétrole? Élément de réponse ce soir dans Décryptage. Et un invité en studio ce soir avec moi. Bonsoir Younes Belfella.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste du monde arabe, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est Créteil et directeur du think tank MedFocus. Je voudrais tout d'abord commencer avec ce témoignage tourné en Arabie Saoudite par RFI.
C'est incroyable. Nous voyageons beaucoup, mais c'est l'un des lieux les plus extraordinaires où nous ayons été. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les petites attentions partout. Sur les parkings, les feuilles de palmier et les pierres pour délimiter les places de stationnement, face aux rochers en forme d'éléphant, des banquettes creusées dans le sable pour profiter de la vue. Tout a tellement de style, nous sommes conquis.
Et voilà, c'est une touriste autrichienne visiblement ravie de son séjour à Alula, une cité archéologique qui fait partie des méga-projets dont on va parler et qui attire déjà donc des touristes internationaux. Et quel est en ce moment le plus gros projet du moment en Arabie Saoudite?
Il y en a plusieurs, parce qu'il y en a des méga-projets comme Alula, comme le NEOM, qui est la cité, la smart city, on va dire, de l'Arabie Saoudite, avec un budget de 500 milliards de dollars. Mais il y a aussi des projets de diversification économique. Donc, c'était tout l'objectif, en fait, de la vision 2030 annoncée depuis l'arrivée du prince héritier Mohammed bin Salman, qui a une stratégie de préparer l'après-pétrole à travers le développement de d'autres secteurs d'activité, notamment les secteurs de services. Donc soit le tourisme qui devient une destination extrêmement importante, donc on parle l'année dernière d'à peu près 16 millions de touristes, c'est une première quand même pour l'Arabie Saoudite, et c'est la première fois que le tourisme arrive par exemple à participer au PIB avec à peu près 3%, et le développement de certains secteurs d'activité comme le divertissement qui prend bien évidemment une échelle extrêmement importante, parce qu'on parle d'à peu près d'un budget de 35 milliards de dollars avec ce qu'on appelle le Riyad Season, ou la saison du Riyad, dont notamment il y aura le match de boxe pour le vendredi, c'est-à-dire c'est un événement qui dure plus de 3 mois avec la présence bien évidemment de plusieurs activités sportives et artistiques, et dont l'objectif c'est pas seulement d'avoir un retour sur investissement financier, mais l'idée bien évidemment c'est d'avoir de l'influence. C'est le fait de changer déjà l'image de l'Arabie Saoudite, cet état wahhabite connu dans le monde entier, mais c'est d'avoir aussi une certaine ouverture vers le monde. Et bien évidemment, là, la stratégie de l'Arabie Saoudite mise énormément sur cette question-là, sur la question de la diversification. Après, il y a aussi un autre élément qui est extrêmement important dans cette stratégie, c'est les investissements à travers le PIF, le Fonds Souverain d'Investissement Saoudien, qui avoisine actuellement à peu près 750 milliards de dollars, avec bien évidemment un objectif d'arriver à 2000 milliards de dollars en 2030, en achetant des participations dans des grandes entreprises, y compris les plus grandes entreprises multinationales dans le monde entier. Et donc, ce qui fait que là, l'objectif, c'est bien évidemment d'essayer de diversifier ses ressources, sachant bien que le pétrole restera toujours, bien évidemment, jusqu'aujourd'hui, la principale recette. À peu près, on parle de 65% des recettes, on parle d'une participation au PIB de 16%, et 75% des exportations sont des produits pétroliers.
Mais si l'Arabie Saoudite organise comme ça des gros combats de boxe, se lance dans le sport, etc., est-ce que c'est aussi parce que c'est le seul pays maintenant qui peut se payer ce genre d'événement? Normalement, pour un match de boxe, si on veut rester là-dessus, ce serait les États-Unis qui historiquement organisent ça, ou le Royaume-Uni. Maintenant, c'est les seuls qui peuvent faire monter les enchères. Il n'y a plus personne à côté qui peut rivaliser.
Non, je crois qu'il y a une certaine concurrence régionale dans les pays du Golfe, notamment entre les trois pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, concernant cette question. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, elle a préparé un petit peu le terrain par le fait de recevoir quelques matchs. Elle a même eu, par exemple, la finale de la Coupe d'Italie, certains matchs de clubs européens. L'investissement, surtout dans le club de Newcastle, a aidé quand même à avoir quand même une certaine influence dans la scène footballistique européenne. Il y avait quand même les grandes transactions de football l'année dernière dans le championnat saoudien. Et là maintenant, il y a aussi une volonté de créer un espace très concurrentiel entre ces pays-là. Donc si on voit le Qatar a organisé la Coupe du Monde en 2022, l'Arabie Saoudite vise l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. Les Émirats ont organisé à Dubaï l'Expo de Dubaï 2020 et la COP 28 en 2023. Là, on constate que l'Arabie Saoudite organisera l'Expo universelle en 2030. En fait, c'est une situation qui me rappelle un petit peu les Émirats de l'Italie de la Renaissance, c'est-à-dire cette concurrence qui existait entre Sicile, Lombardie, Sardaigne sur la question de la culture, de l'art, de la philosophie. Et donc, ça montre qu'il y a en quelque sorte un besoin concurrentiel, voire à certains moments, un besoin de guerre, mais du fait que ces pays ne veulent pas faire la guerre et ils n'ont pas le moyen de faire la guerre militairement dans le sens conventionnel, donc il y a une certaine concurrence sur le plan économique extrêmement forte et surtout sur le plan de l'influence. Maintenant, si on parle bien évidemment de la partie financière, l'Arabie Saoudite, elle a un avantage concurrentiel par rapport aux deux autres pays dans cette région. Et à travers la manne financière du pétrole, notamment les recettes d'Aramco et du PIF, bien évidemment, elle arrive à créer un avantage compétitif par le fait d'organiser des événements de grande envergure.
Et justement, comment se porte Aramco, comment se porte le secteur pétrolier en Arabie Saoudite?
Ça dépend bien évidemment des marchés internationaux, parce qu'on sait parfaitement que la situation aussi, elle dépend des prix du pétrole. Là, quand on parle d'un prix qui est entre 80 et 85, c'est quelque chose qui est intéressant. Bien évidemment, ce n'est pas l'objectif, parce que l'objectif déjà dans les budgets de l'Arabie Saoudite, c'est d'aller vers 90 $ pour le baril. Aramco reste une des grandes entreprises dans le monde. Sa valorisation, elle était historique. On parle d'à peu près 2 000 milliards de dollars. Et donc, l'ouverture au capital d'Aramco, il était quand même un pas extrêmement important dans la libération économique du pays. Maintenant, certes, la situation géopolitique dans le monde influence, notamment la situation de la guerre en Ukraine. Et on sait parfaitement que l'Arabie Saoudite, c'est quand même un des piliers des pays de l'OPEP, avec la Russie, bien évidemment, concernant cette question de la régulation des prix de pétrole. Mais jusqu'au même moment, je trouve que quand même l'Arabie Saoudite arrive à se financer par une grande partie de pétrole. C'est vrai qu'il y a une partie de dette qui avoisine à peu près 26% du PIB, mais ça reste pas un taux inquiétant par rapport à un pays quand même riche comme l'Arabie Saoudite.
Donc c'est maîtrisé, cet endettement pour l'instant est maîtrisé.
Tout à fait, c'est un endettement maîtrisé. Maintenant, c'est-à-dire que quand on voit la situation avec un prisme quand même européen, dont on a des taux d'endettement qui sont très 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 élevés, il faut savoir que quand même les dettes à certains moments dans l'économie sont très intéressantes parce que ça nous donne un effet de levier. Maintenant, la question qui s'impose, est-ce qu'on fait des dettes pour financer des investissements et des projets, et c'est le cas de l'Arabie Saoudite, ou bien c'est pour financer et recouvrir des charges, et c'est le cas de certains pays en Europe. Donc c'est pour cette raison que je trouve que ça reste une situation très maîtrisée, parce qu'il y a toujours des mannes financières, il y a une certaine crédibilité financière de l'Arabie Saoudite au niveau international, et il y a aussi d'autres sources de financement, c'est-à-dire il y a la crédibilité du fonds souverain d'investissement, il y a bien évidemment les perspectives extrêmement positives par rapport à la question des prix du pétrole, il y a aussi le développement de cette diversification économique, dont notamment le FMI l'a salué ça en septembre 2023, en mentionnant que si cette politique de réforme économique est principalement sur le plan fiscale et dans le marché de travail, elle peut amener à avoir beaucoup de changements. Là-dessus, permettez-moi de vous dire que quand même, on constate qu'il y a, c'est la première fois qu'on voit en Arabie Saoudite qu'il y a quand même une nouvelle politique fiscale, notamment l'implantation de la TVA de 5%, mm-hmm. et c'est une première dans cette région. La percée de la femme dans le marché du travail, on parle de 37% comme participation de la femme saoudienne par rapport à 16% en 2016. Et Et donc, cette diversification, même aussi au niveau des lois, ça a donné quand même un certain élan qualitatif pour l'Arabie Saoudite. Mais la question qui s'impose, c'était plutôt par rapport à la question des investissements directs étrangers.
Alors, justement, ils sont à 33 milliards de dollars contre 100 escomptés. Ça montre quand même une certaine frilosité. Qui investit ? Est-ce que l'Arabie Saoudite trouve assez d'investisseurs ?
La question, je crois qu'on peut le voir d'un point de vue très macro au niveau international, parce qu'il y a quand même une régression des investissements directs étrangers au niveau même international. La Chine qui a réalisé en 2021 plus de 360 milliards de dollars, elle a réalisé en 2023 15 milliards de dollars simplement. En Arabie Saoudite, c'est vrai que les objectifs ils étaient plus ambitieux que ce qui était à réaliser. Maintenant, la question qui s'impose, c'est l'attractivité d'investissement aussi, il est très compétitif au niveau de la région. L'Arabie Saoudite, elle a fait une exonération de 30 ans pour les entreprises multinationales. Et là, avec une autre condition, c'est qu'ils doivent bien évidemment s'installer en Arabie Saoudite seulement dans toute la région des pays du Golfe. Et là, il y avait une grande concurrence avec le modèle de Dubaï, qui était bien évidemment le modèle inspirant pour tous les pays de la région. Et ça pose certaines problématiques, on va dire, de blocage pour certaines entreprises. Maintenant, je crois qu'il faut quand même donner du temps par rapport à cette politique d'investissement pour arriver à avoir les 100 milliards voulus par l'État saoudien, mais ça n'empêche pas que l'investissement public continue jusqu'à aujourd'hui, et on voit quand même il y a des industries, voire des services émergents en Arabie Saoudite. Je peux citer la question des énergies renouvelables, le nucléaire, dont on parle d'un grand projet du nucléaire civil d'à peu près 80 milliards de dollars avec un partenaire chinois, les projets concernant les industries militaires, et là où il y a une certaine émergence extrêmement importante aussi en Arabie Saoudite. Donc la volonté de l'Arabie Saoudite, c'est aussi d'investir dans des secteurs qui vont apporter un retour sur investissement sur le long terme, y compris le sport actuellement.
Et j'aimerais justement qu'on parle, vous avez évoqué les enjeux écologiques. Le pays a notamment mis en place des projets de capture de dioxyde de carbone, notamment en plantant 10 milliards d'arbres. Je voudrais qu'on écoute sur le sujet cette analyse d'Aïcha Al-Shaari. Elle est chercheuse à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université de Singapour.
L'Arabie Saoudite a essayé de trouver un équilibre qui lui permettrait de rejoindre les efforts mondiaux en matière de transition énergétique, tout en veillant à ce que cette transition n'aille pas à l'encontre de ses objectifs économiques. L'économie circulaire du carbone est une approche qui cherche vraiment à tirer parti de toutes les techniques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le nucléaire, la capture de carbone et le stockage. Et elle implique de n'exclure aucune source d'énergie. Et je pense que pour l'Arabie Saoudite, étant donné le rôle du pétrole dans son économie et dans sa production d'énergie pour répondre à ses besoins, cette approche est pertinente, car cela lui permet d'utiliser ce qui lui convient pour construire son propre chemin vers une transition énergétique.
Voilà, est-ce que les projets en cours en matière d'écologie sont vraiment ambitieux aujourd'hui en Arabie Saoudite ? Est-ce qu'il y a une volonté de prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement ?
L'objectif de ces projets pour l'Arabie Saoudite, c'est de créer une certaine diversification, c'est-à-dire de manière à se dire que les énergies fossiles, ça représente un capital matériel, ben il faut un capital immatériel à travers les énergies renouvelables. Maintenant, si vous regardez toutes les grandes entreprises pétrolières dans le monde, si on parle même de Total, par exemple, sur notre cas français, ou même Aramco, ils ont des filières qui concernent la question des énergies renouvelables, parce qu'ils savent parfaitement que c'est un secteur qui est porteur. Maintenant, c'est vrai que sur le plan mondial, les énergies renouvelables représentent seulement 10% de la production de l'électricité, avec un grand investissement mondial de 3 000 milliards de dollars. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt aussi d'aller vers d'autres secteurs d'activité, notamment le nucléaire. Et s'ajoutant à cela, il y a aussi un autre élément qui est très important dans la stratégie de l'Arabie Saoudite, c'est la question des matériaux rares. Et on sait qu'il y a un grand projet qui avoisine sur la base d'une étude, on parle quand même d'un montant de 2 500 milliards de dollars comme étant base de matériaux matériaux rares en Arabie Saoudite, quel que soit l'or, le cuivre ou même le phosphate. C'est ce qui peut bien évidemment donner aussi un élément intéressant sur le plan pas seulement de diversification économique, mais aussi comme étant une case de recettes financières pour l'Arabie Saoudite afin d'avoir le budget nécessaire pour financer les différents méga-projets, comme j'ai dit, qui sont au moins 6 méga-projets dans le pays, qui demandent énormément d'argent sur les prochaines années.
Et on parlait justement, vous évoquiez la ville de Neom, futuriste, qui fera 20 fois la taille de Los Angeles. Voilà, tous ces projets pharaoniques qui sont à l'horizon Vision 2030, donc dans très peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un peu le risque que ce ne soit pas fait ou même que le chantier ne soit jamais livré? Est-ce que y a ce côté-là aussi peut rendre les investisseurs un peu frileux?
Non, je crois que toujours il y a des risques. Maintenant, la situation actuelle nous indique clairement qu'il y a quand même un programme très 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 ambitieux dont le pays il était engagé. Là, quand même, permettez-moi de vous dire quand même que la vision 2030, elle était sur la base de pas mal d'études des Nations Unies, de la Banque mondiale, qui ont encouragé tous les pays de la région, des pays du Golfe, à aller vers la diversification. C'est-à-dire que c'est toute la tendance de la région. Vous reprenez les Émirats, vous prenez le Qatar, ils ont tous des visions 2030. Le Koweït, elle a la vision 2035. Oman, elle a la vision 2040. Donc, il y a quand même une certaine tendance mondiale. C'est vrai qu'elle était aussi corroborée par des études, notamment par des grands cabinets stratégiques qui étaient côtoyés par l'Arabie Saoudite.
C'est
le cas aussi de McKinsey.
Se presser autant ?
C'est la question aussi du temps qui est très intéressante. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que les garanties présentées par l'Arabie Saoudite promettent que si même il y aura un retard dans la réalisation, mais on va avoir un changement radical dans cette situation. C'est pas ça le point le plus inquiétant. Ce qui est vraiment intéressant peut-être à étudier, c'est la question géopolitique qui peut bien évidemment avoir des effets dans la région. Et pour cette raison, on a constaté que l'année dernière, l'Arabie Saoudite, elle a quand même rentré en dialogue stratégique avec l'Iran, principal rival, ennemi de la région sur la question de la puissance, un dialogue aussi avec la Turquie qui a aussi des objectifs expansionnistes dans la région. Et donc l'objectif de l'Arabie Saoudite, c'est pas seulement de créer d'un certain développement économique sur le court terme, mais de créer une stabilité économique capable bien évidemment de produire un développement économique régional et un développement économique sur le long terme. Et on voit aussi qu'il y a une certaine diversification de partenaires. La relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, elle est bien évidemment très très connue comme étant une relation stratégique et historique, mais il y avait une ouverture vers la Chine qui devient le principal partenaire commercial de l'Arabie Saoudite et de tous les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite devient membre des pays du BRICS. Et ça, c'est des changements qui méritent d'être étudiés pour prendre en considération qu'on n'est pas seulement sur un marketing économique ou un marketing politique, mais on est vraiment sur un cas d'un game changer dans toute la région, ce qui peut bien évidemment rendre les pays du Golfe des acteurs incontournables dans la prise de décision économique mondiale.
Et assez rapidement, il nous reste une petite minute. À qui va profiter finalement tous ces grands projets? Est-ce que c'est plutôt tourné vers les touristes, vers les expatriés? Est-ce que ça va profiter aussi aux Saoudiens?
Je trouve que la stratégie au départ, elle était vers la saoudisation, on va dire, du monde du travail, sachant bien que c'est un pays qui a accueilli quand même des expatriés et qui a montré une certaine ouverture pour les expatriés et pour les investisseurs étrangers, notamment sur la question du logement, sur la question de la lourdeur administrative de séjour, etc. Maintenant, oui, il y a un enjeu, peut-être c'est pas le cas pour l'Arabie Saoudite, mais pour le Qatar et les Émirats, qui est un enjeu démographique. C'est des pays là où la majorité écrasante de la population, c'est des étrangers. Pour l'Arabie Saoudite, là-dessus, il y a une certaine stabilité extrêmement importante par rapport aux autres pays de la région.
Merci beaucoup, Younes Belfella, d'avoir accepté notre invitation. Économiste spécialiste du monde arabe, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est, Créteil et directeur du think tank MedFocus. Merci également à Arthur Geoffroy qui réalisait ce décryptage, Arnold Assewa qui m'a aidé à le préparer. Dans quelques secondes, vous retrouvez le débat du jour avec Romain Ozoui.